Yann et Frank est fier de s'associer à l'entreprise québécoise RangeBrand.ca, le brand numéro 1 de vêtements western au Canada. Si t'es à la recherche de vêtements de qualité disponibles dans toutes les tailles et qui vont se démarquer par un look incroyable et original, viens faire un tour sur RangeBrand.ca. Casquettes, t-shirts, hommes et femmes, hoodies, camisoles, montres et une foule d'accessoires sont disponibles. Livraison gratuite avec une commande de 99$ et plus. RangeBrand.ca.
Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on a Jérôme Blanchet-Gravel. Fait que je vais parler 2 minutes dans le podcast. C'est parfait, tout le monde va être content. Salut!
Yes, Jérôme, parlant de podcast, on rappelle aux gens que vous avez lancé aussi votre podcast, donc le Libre Podcast.
Qui ben est oui.
Un peu partout. J'ai écouté d'ailleurs votre épisode où vous avez reçu Jonathan Hamel pour parler du budget. C'était quand même assez
cool. Et du Vinogate.
Ouais, et du Vinogate avec Pascal Bérubé. D'ailleurs, on ne sait toujours pas s'il a reçu la bouteille de vin que Yann lui a envoyée.
Non,
Lui demander de le débloquer.
Ben oui, j'ai vu ça.
Donc, si on répète, on réitère l'invitation. Si Pascal veut venir boire la bouteille avec nous sur le podcast, on est intéressé à entendre ce qu'il a à dire.
C'est quoi le vin? Quel est le vin?
Un bon vin ontarien avec un caribou dessus.
Ouais, c'est ça. Un bon vin blanc sucré de la vallée de l'Okanagan. Donc, c'est.
J'ai pas trollé pantoute, désolé.
Non, c'est ça, il n'y a pas de troll du tout. Mais c'est drôle parce que. Petit aparté comme ça. Vous avez commenté aussi le budget avec Joe Hamel dans le podcast que je disais. Puis, tu sais, on en a parlé ici abondamment. Bon, ça a été discuté sur Radio Week. Je sais que vous avez fait un article aussi sur Libre Média sur la dette du Québec. Mais en dehors de nos quelques médias, ça semble pas. Honnêtement, ça semble être un non-sujet ou presque. J'ai entendu Paul Saint-Pierre Plamondon dire que c'était pas si pire que ça.
T'sais, le gars le aspire budget?
À faire. Ouais, le gars aspire à faire un pays. Son budget de l'an 1 est déjà à mettre aux poubelles. Mais ça a l'air que c'est pas si pire que ça. Là. On enlève 11 milliards comme ça dans le bas. Il manque 11 milliards dans le bas de laine. Potentiellement qu'il en manquerait 13 ou 14 si tu enlèves la péréquation canadienne, mais semble-t-il qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que tu trouves qu'il y a comme un manque de sérieux? Il y a comme un manque de considération pour les questions économiques au Québec. Là. Je ne sais pas si c'est par dédain de genre vu que la droite de Québec parle juste de ça, là, d'économie, nous autres, ça nous passe 100 pieds par-dessus la tête. Fait que si on ne parlera pas de ça, mais je ne sais pas. Il me semble que c'est une question fondamentale.
Oui.
Tu fais souvent, quand tu t'écris des tweets, le hashtag le déclin.
Oui, bientôt la chute.
La chute.
Une fois le naufrage, mais ouais. Je m'en tiens beaucoup au déclin. Là.
Il y a une gradation, mais je pense que n'importe qui veut être sérieux là, en politique n'a pas le choix de prendre en considération ça. Là, c'est-à-dire que là, on s'enligne dans un genre d'impasse budgétaire. Yann en a parlé, il y a un déficit structurel de 4 milliards par année. Ça veut dire que peu importe ce qu'on fait, on part à moins 4. Là.
Oui, mais c'est pas le seul sujet. C'est pas seulement l'économie. On me posait la question avant-hier à une radio française, Tocsin. Très bonne émission de radio indépendante animée par Clémence Ouyakova. Et elle me posait la question par rapport au projet de loi 63. Vous avez entendu parler de ce projet de loi fédéral.
Ça a passé en dessous de la couverture, pas pire. On en a parlé dans un épisode, puis il n'y a personne qui parle de ça au Québec. Là.
Ben, même au Canada anglais, peut-être des médias comme Rebel News, etc. Mais on voit quand même qu'il y a un ensemble de sujets sur lesquels les grands médias sont complètement muets. Donc, le budget en fait partie. Bien, évidemment, ils en ont parlé, mais peut-être pas sous un angle si critique que ça. Mm-hmm. Mais il y a plusieurs sujets, en fait, qui ne sont tout simplement pas considérés. Mm-hmm. C'est quand même très étonnant, là. Donc, il y a vraiment un décalage entre... je veux dire, une partie de la population et le reste de la population, ou entre la population et l'establishment. Est-ce qu'il y a un autre clivage qui se superpose? Je ne sais pas, mais vraiment, Même chose pour la fameuse loi sur... Il y a eu plusieurs exemples qu'on peut donner là, récemment. La loi que j'ai commentée sur la prochaine loi sur les catastrophes naturelles au Québec qui pourrait finalement instaurer le même genre d'état d'urgence qu'on a vu durant la crise sanitaire. Le ministre arrive en conférence de presse, dit « Ouais, nous, on fait une loi qui va nous donner le pouvoir de retomber en urgence sanitaire, mais sous pour des motifs écologiques. » En gros, le gars, il arrive, il dit ça. Et zéro réaction, personne n'en parle. Juste Libre-Média, je fais un éditorial là-dessus, Rebel News, bon, qui fait un reportage sur la base d'éditorial de Libre-Média. Mais vous voyez, c'est incroyable.
Ben à la base, on dirait que
les Québécois... Regardez, Vinogate, dernier exemple, on peut en sortir toute une panoplie. Vinogate, les podcasts comme le vôtre, comme le nôtre, on est les seuls médias à avoir traité la question de manière critique. Ben, les autres n'ont tout simplement pas traité. Donc, éclipse totale.
Yann, la loi, ça peut paraître un détail.
La loi 22.
La loi sur l'expropriation, c'est un autre exemple qu'on pourrait donner. Il a fallu, même dans des médias qui... je veux dire, nous sont en général amis ou tout ça, il a fallu un peu pousser pour dire « Non, c'est important, là. Ouais, c'est quoi ce sujet-là, la réforme de la loi sur l'expropriation? » Puis on parlait de ça dans le...
Juste, Frank, historiquement, les Québécois ne réagissent que quand ça leur pète d'en face. Je veux dire, pendant la pandémie, c'était ça, là. On disait « Il y a ça qui s'en vient, le port du masque obligatoire, ça s'en vient, puis le monde s'en calissait. La journée que ça a été obligatoire pour de vrai, le monde a fait « What? »
Man. Surtout l'intrusion dans le quotidien, là, quand ça touche le quotidien des Québécois, là, ça commence. Et après, on a vu que.
La fois que ça m'avait frappé le plus, le 10 août 2020, on rentre en onde à Radio X avec Jeff. On parlait de la pandémie à tous les jours, moi puis Jeff. Jeff tombe en vacances pendant l'été. On a un break pendant l'été. Finalement, il nous sac la paix. Le 10 août 2020, on rentre en onde, puis on reprend les thématiques. On dit ça s'en vient, ils vont fermer les écoles. Nanana, nanana, réveillez-vous, laissez pas faire ça. Puis. On recevait des courriels, autant Jeff que moi, que Radio X. Ouais. Vous êtes bien fatiguant, arrêtez de parler de la pandémie, nanana, vous êtes donc bien tannant, vous êtes mono-sujet, blablabla. Quand on arrive, là, les gens n'étaient pas contents envers nous, puis ça, si on parle du public qui nous écoutait. Là. Quand on arrive début septembre, puis que là, ils ferment les écoles pour de vrai, là, les gens sont une tape dans le dos, une chance, vous êtes là, puis c'est une chance que vous parlez pour nous. Ouais, mais calvaire aussi. Quand le setup politique se mettait en place pour vous crisser une claque dans la tête, vous nous disiez de fermer nos yeux. Tu sais, à un moment donné, c'est tough, là.
Oh, et puis tu as eu l'autre dernier exemple dans ce genre-là, pour mettre de l'emphase sur le propos, c'était la modification de la loi sur l'équilibre budgétaire. Bon, ça a l'air de des technicalités un peu abstraites à l'automne. Mais en grosso modo, ça a permis au gouvernement de faire quoi? C'est que sous Lucien Bouchard, avec le Parti québécois, puis on a fait l'historique de ça. C'est important de comprendre l'historique de pourquoi, dans les années 90, le Québec a eu deux décotes de sa cote de crédit, s'enlignait pour en avoir une troisième. Ça veut dire emprunter pour financer des ponts, des routes, tout ça, ça coûte de plus en plus cher. Lucien Bouchard s'est rendu à New York, jasé avec des agences de notation. Il leur a dit, si vous ne nous décotez pas, je vais faire adopter la loi sur l'équilibre budgétaire qui va forcer le gouvernement à atteindre un équilibre budgétaire toujours quand il fait un déficit sur horizon de 5 ans. C'est une loi qui a été saluée. Ça a été, après ça, on a vu qu'après l'adoption de cette loi-là, il y a eu des budgets, en tout cas plus serrés, au gouvernement du Québec. Là, la CAQ a fait n'importe quoi avec les finances publiques et pour se sortir la tête de l'eau, ils ont modifié cette loi-là en remettant le compteur à zéro. Donc, c'est-à-dire, ça fait depuis 2018 qu'ils font des budgets, grosso modo, déficitaires. Et là, ils disent, bien, le 5 ans, là, il va commencer maintenant. Donc, dans 5 ans, tant qu'on le fait ça encore pendant 5 ans, on va être correct. Et là, la première affaire qu'on a entendue, c'est que les agences de notation ont souligné des inquiétudes. Le Québec n'a pas été décoté, pour faire peur aux gens pour rien. Mais quand même, c'est du tripotage législatif qui fait que personne ne parle de ces affaires-là. Puis là, on est tous surpris d'apprendre qu'il y a un déficit de 11 milliards, mais il a été rendu... Les amis, il y a des gens qui jouent dans les lois, tout le monde s'en fout, mais c'est important de parler de ces choses-là.
Il y a une grande indifférence. C'est vraiment un problème, pas juste au Québec, là.
Non.
Mais l'indifférence de la population vis-à-vis plein de sujets, c'est-à-dire les gens sont vraiment plus engagés dans leur milieu politiquement. Le repli, évidemment, covidien, ce que Pascal Bruckner a appelé en France le sacre des pantoufles, c'est-à-dire évidemment le repli sur son foyer. Un très, très bon essai, vraiment, qui décrit bien l'époque. C'est le renoncement au monde. Donc, les gens sont repliés sur eux-mêmes. C'est quand je parle évidemment de la société chalet, là, c'est le repli au chalet ou ce cabanon, tondeuse, qu'est-ce que je disais récemment, cabanon, chalet, tondeuse. Là, donc, l'espace mental du Québécois, c'est de la porte de garage au cabanon, essentiellement. Donc, c'est sûr que dans une société comme ça, l'indifférence est un grave problème. Tu sais, vraiment, il y a un désengagement. Donc, c'est sûr que quand les souverainistes nous disent on est prêt du grand jour, etc., ça va arriver. Ouais. Quel est l'engagement réel de la population par rapport au Québec, à la société en général? C'est une société extrêmement individualiste, le Québec. Personne ne le sait. Tout le monde continue à dire que, bon, c'est la solidarité, les syndicats. Les syndicats s'en mettent plein les poches, le budget déficitaire. On nous parle de solidarité, mais imagine quand même, ça prend du culot pas à peu près, là, tu sais, à avoir tes pancartes sur le bord de la rue, là, avec tes fonds de pension, là, puis tu me fais croire, tu me parles de solidarité, là. Viens voir au Mexique du monde qui vend des légumes avec une jambe, montrer c'est quoi être solidaire de quelqu'un et l'aider, là.
La pancarte que tu parles, c'est celle de la FIC présentement. Sur le bord des établissements de santé, c'est écrit, ils sont toujours en égo. Nos conditions, c'est vos conditions du système de santé dans le futur. Man,
vous avez vu le Journal de Montréal de Québec, un article, bon, une femme qui est morte à l'urgence après n'avoir vu aucun médecin, donc après 18 heures, je pense.
Ça, c'est la faute de la personne.
Nos conditions de travail sont vos conditions de soins. Excuse-moi, avec le salaire des médecins au Québec, si les conditions de travail étaient les conditions de soins, on serait vraiment en Cadillac. Là. De quoi vous parlez? Imaginez le culot pareil. Puis toutes les infirmières ne sont pas non plus sous-payées au Québec. Là.
Non.
Ça dépend évidemment des catégories d'infirmières, etc. Donc, de quoi vous parlez? Là? C'est encore une fois, les ordres professionnels en ont absolument rien à foutre de la population. Les ordres professionnels n'ont rien à foutre des patients. Absolument rien à foutre. Ouais. C'est vraiment indécent. Et je ne peux pas croire que la population endormie continue à avaler ce discours-là sur la pseudo-solidarité. C'est le plus grand mensonge québécois sur la solidarité. Man, c'est par des subventionnés, des GND qui nous parlent de solidarité, un petit parvenu. C'est-à-dire qui a surfé sur le système, qui nous parle de régime socialiste. C'est indécent. Écoute, c'est une vraie mascarade.
C'est une mascarade. Ben, juste avant que tu arrives dans la partie pour nos membres Patreon, on parlait de la volonté du ministre Drainville de faire un... Hey, imaginez-vous donc, c'est grosse histoire. Et en gros, ce qu'il veut faire, c'est mettre en compétition... Les différents centres de services scolaires pour qu'on voit c'est quoi qui se fait de bien au Québec. Pourquoi par exemple...
Pour forcer les écoles à essayer de se démarquer. Exactement.
Donc, avoir un palmarès qui dit, écoutez, dans cet endroit-là de l'île de Montréal, même s'il y a beaucoup de pauvreté, le taux de réussite des jeunes garçons est plus élevé qu'à dans telle autre région. Pourquoi? Et est-ce qu'on peut s'inspirer de ces bonnes pratiques-là? Et là, ça fait pas 8 ans, ça fait même pas 3 mois qu'il y avait des gens dans la rue nous expliquant qu'ils étaient là pour l'avenir des enfants, pour l'avenir de l'éducation, pour l'avenir de notre nation et de notre peuple et de tout ça. Et puis, il fallait améliorer leurs conditions parce que la survie presque des enfants en dépendait. On leur a donné ce qu'ils voulaient, leur 20% d'augmentation de salaire. Un coup que c'est fait, tout ce que le ministre demande, c'est de dire, écoutez, ça serait le fun qu'on compare un peu, non, puis c'est quoi cette compétition malsaine-là? Puis là, tout d'un coup, ils veulent pas se faire mettre devant. Il faudrait surtout pas dire à une école quelque part que le travail qu'elles font est dérisoire ou minable par rapport à ce qui se fait ailleurs. Il faudrait surtout pas qu'on sache qui est meilleur qu'un autre. Tu avais aussi l'histoire du syndicat des professeurs qui refusaient que lorsqu'un professeur est transféré d'école, on conserve son dossier, dans le fond, de plainte. Là. C'est-à-dire qu'un professeur, par exemple, qui a dans son dossier des plaintes pour des inconduites, tout ça, quand il change d'école, on devrait faire table rase. T'sais. Dans le fond, c'est comme un nouvel emploi. Les personnes devraient savoir que quand il était à l'ancienne, dans son ancien poste, il y avait des plaintes parce qu'il arrivait en retard ou que, je sais pas, moi, il y avait des inconduites avec les étudiants. Mais c'est n'importe quoi. Là. Comme tu dis, ces gens-là ont l'audace de venir... de prendre la rue même pour nous dire que ce qu'ils veulent, c'est améliorer la société et tout ça. Il y a un coup qu'ils ont ce qu'ils veulent, c'est-à-dire des augmentations de salaire. Ils redeviennent ce qu'ils ont toujours été, c'est-à-dire des forces d'inertie et de pour tout ce qu'ils font, c'est pour préserver la sclérose de la société, là, que rien ne change.
Le nivellement par le bas, tu sais. Même une des présidentes là, d'un syndicat qui avait dit, la leader, je ne sais pas, qui avait dit que finalement le déficit n'était pas bien grave, cette affaire-là. Tu sais, dans le fond, ils viennent de se voter un nouveau skidoo, puis deux voyages dans le sud. Puis ils n'en ont absolument rien à foutre. Je te dis, des conditions, que ce soit des patients ou des élèves, ils n'en ont rien à foutre, là, fondamentalement. On ne les croit pas, de toute façon, même leur nom verbal, la télé, c'est une bande d'hypocrites. C'est sérieux, on est loin des misérables. Là. C'est, il y a une gauche quand même qui existe à travers le monde, qui est plus honnête. Là, ça ne veut pas dire que tout le monde est honnête, tout le monde évidemment a des intérêts quelque part. Mais même qu'il y a des gens qui klaxonnaient allègrement, honnêtement, les grévistes sur le bord de la rue, moi, ça me dépasse complètement. Que ça s'en venait, le budget, là. Puis tout le monde, c'est ça, c'est le fameux bar open dont je parle. Tout le monde s'est rué vers le buffet. Puis dans pas long, il ne restera rien sur le buffet. Des enfants qui courent vers le buffet, ramènent tout dans leur assiette, puis là, ils retournent, il n'y a plus rien. Le Québec, bientôt, ça va être ça. Puis, les infirmières, on en manque, mais on ne s'arrange pas pour que les nouvelles infirmières étrangères puissent être intégrées rapidement. Mmh. Donc, tu sais, on est extrêmement hypocrite. On dit qu'on manque d'infirmières. On ne fait rien pour accélérer le processus véritablement des infirmières étrangères. Je vous le dis, là. Je connais le dossier. Ils ne font rien. 3-4 ans, c'est super infantilisant. Donc, tout est fait pour garder les salaires élevés des infirmières actuelles. Ils ne feront pas venir d'anges gardiens. Ils n'en garderont pas plus que ça. Les gens vont continuer à crever dans les corridors pour que les infirmières puissent se payer des chalets avec leur mari, puis lui, le skidoo. C'est vraiment ça.
Puis, c'est pas grave. De toute façon, on a de l'aide médicale à mourir. Fait que si c'est trop souffrant, les corridors...
Non, je ne veux pas généraliser. Je sais que le travail d'infirmière est devenu difficile. Puis, je sais, bon, ils veulent abolir là, les agences privées. Puis, bon, je ne dis pas que c'est facile. Mais c'est pas dans une société en général, on essaie de penser un peu aux autres. Puis ça n'arrive pas au Québec.
L'affaire qui est ce qui est vraiment spectaculaire dans le budget, je pense que c'est le Nouveau-Brunswick qui nous le met en pleine face, sauf que dans le dôme, on ne s'en rend pas compte. Mais quand on arrive avec la pandémie, c'est un choc économique majeur. Par contre, le gouvernement fédéral a tellement imprimé de l'argent, on sait ce que ça l'a fait, ça a créé de l'inflation. Cette inflation-là s'est transformée à plus de TVQ qui rentre, à plus d'impôts chez les entreprises qui rentrent, à plus d'impôts chez les particuliers qui rentrent, des augmentations de salaire, ainsi de suite. Ça a vraiment généré des hausses de revenus importantes pour le gouvernement. Par contre, le gouvernement jouissait d'un avantage. C'est que tant et aussi longtemps que les conventions collectives n'étaient pas en renouvellement, les salaires des employés ne montaient pas. Ce qui fait en sorte que le gouvernement était dans une position qui recevait tous les bienfaits de l'inflation pour un gouvernement, et il n'avait pas à subir les impacts négatifs tant et aussi longtemps qu'il négociait pas sa convention collective. Ce qu'on aurait dû s'attendre, c'est des surplus budgétaires pendant cette période-là. C'est tellement vrai qu'on se rend compte qu'en 2020-2021, quand on prévoit l'année 2024-2025, on était censé dépenser 132 milliards de dollars. Finalement, on va dépenser 157 milliards de dollars. Cet écart-là de 25 milliards en 4 ans qui s'est créé dans un seul budget... C'est le genre de surplus budgétaire qu'on aurait dû faire. On aurait dû avoir dans les dernières années des surplus budgétaires de l'ordre de 10 ou 12 milliards par année jusqu'au moment où est-ce qu'on négocie la nouvelle convention collective. Mm-hmm. Dans ce cadre-là, avec 10 ou 12 milliards de surplus, tu négocies la nouvelle convention collective qui nous coûte carrément 11 milliards. Boum, tu es encore en surplus budgétaire ou en équilibre budgétaire dans un contexte où est-ce que tu n'as pas de récession. Sauf que le gouvernement Legault, tellement mollasson, que pendant cette période-là où est-ce qu'il aurait dû engranger des surplus budgétaires gigantesques à cause de l'inflation créée par Justin Trudeau, il aurait dû engranger des gros surplus. Ce n'est pas ce qui est arrivé. Il a continué d'engager du monde parce qu'il était incapable de dire non à personne. Il a continué à créer des programmes. Il a donné des baisses d'impôts aux gens également. Mais ces baisses d'impôts-là se sont quand même transformées en revenus budgétaires supplémentaires pour le gouvernement. Même s'il a baissé les impôts, il y a plus d'impôts pour les particuliers qui sont rentrés pareil de budget en budget. Ben, tu es vraiment dans une position où tu te dis, man, on l'a échappé complètement. Puis là, tu as le petit Nouveau-Brunswick, l'autre bord, 10 fois plus petit que nous autres, qui fait son petit budget ben, rond, petit patapon, qualifié comme budget comptable, sans saveur, sans couleur, par les journalistes. Parce que c'est ça, les journalistes, eux autres, ils veulent des nananes. Mais ça fait 7 ans d'affilée qu'ils font des surplus budgétaires. Ça fait 7 ans d'affilée que le fucking Nouveau-Brunswick fait des surplus budgétaires, puis nous autres, on est.
Et que sa dette descend.
Une philosophie aussi, évidemment, on sait, une philosophie libérale au sens anglo-saxons, là, c'est-à-dire on sait que Trudeau, par exemple, avait cette philosophie-là de... Il y a des gens qui pensent vraiment qu'il faut dépenser avec l'État et que ça rejaillit positivement quelque part, un peu mystérieusement. Mais c'est une véritable croyance, là.
Oui.
Puis même, c'est une théorie économique aussi, là. Donc, il y a des gens qui pensent ça. Au Québec, on forcément, cette croyance-là semble très ancrée. Donc, que finalement, ça prend de l'argent, que les dettes de l'État, de toute façon, un d'un État, mais bon, on ne peut pas mettre ça en faillite. Donc, il y a des gens qui doivent penser que c'est pas très grave parce que c'est une idée qui circule depuis des dizaines d'années. Et c'est ça. C'est là, au fédéral, on peut l'appliquer aussi. Donc,
ben oui, le summum de ça, Jérôme, étant la taxe carbone. Donc là, les libéraux, en ce moment, défendent le taxe carbone en disant « Ouais, mais on vous prend de l'argent, mais on vous en renvoie plus qu'on vous en prend. » Non, mais les amis, si c'était ça, tous les pays sur Terre seraient communistes, là. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de solution dans laquelle le gouvernement vous prend moins et vous en redonne plus.
Non, ça n'est pas.
C'est mathématiquement impossible. Et là, d'ailleurs, le gouvernement a été fact-checké par son propre directeur parlementaire du budget. Et voici les chiffres que ça donne. Donc, Trudeau, lui, dit, ben on prend aux gens une taxe carbone, mais on leur envoie des rabattements, là, les fameux carbon rebates. Donc, on charge plus cher aux gens, mais on leur envoie des chèques. Donc, finalement, ça se fait à coût nul. Ou bien, finalement, même les gens ont plus d'argent que si on ne leur chargeait pas cette taxe-là. Mais c'est complètement faux. Les chiffres sont disponibles, je les ai.
C'était 1800, je pense. 1800$ puis 3200 quelque chose. C'est du simple double. Ils nous redonnaient la moitié de ce qu'ils avaient changé à peu près.
C'est ça. Puis écoute, c'est ça. On parle que, bon, en Alberta, ça représente à peu près 900$ de différence que les gens perdent. Il y a une province qui est la Nouvelle-Écosse, qui, elle, c'est vrai que les gens en reçoivent plus que ce qu'ils en payent. Mais tous les autres, mais vous comprenez que c'est mathématique, c'est normal. Le gouvernement ne peut pas prendre l'argent des gens, faire vivre des fonctionnaires qui taponnent un programme et en redonner plus après. Il n'y a pas d'effet multiplicateur que quand on prend l'argent, on envoie ça au gouvernement, ça rejaillit après par...
Non, tout le monde sait que le seul effet multiplicateur, c'est la culture, Frank. Tu mets une pièce en culture, il en ressort 11 en retombées économiques.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Je l'ai déjà entendu, celle-là aussi.
Hey, écoute, dans l'immédiat cette semaine, vous avez quelques hits que tu voulais nous parler. Fait que je te laisse aller un peu en priorité. Qu'est-ce que tu as le goût de...
Oui, la semaine dernière aussi. Donc, la semaine dernière, on a publié un portrait du médecin Robert Béliveau, là, qui est un des rares médecins à s'opposer aux mesures sanitaires. Je vous laisse aller voir le portrait parce qu'il est assez complet. C'est un type que j'ai rencontré ici à Oaxaca, au Mexique. Donc,
qu'est-ce qu'il fait au Mexique, juste pour le fun?
Il se promène avec sa femme.
La vie est belle.
Oui. Le Mexique est devenu quand même, je vous dirais, une sorte de refuge un peu temporaire ou non pour certains.
Mais je me trompe, c'est facile d'y aller. Québec.
Oui. Vous pouvez rester 6 mois dans le pays là, avec un visa touristique. Après, il y a des gens un peu naïfs là, sur le Mexique, là, parce que bon, ça reste qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Aller n'importe où, puis faire un road trip, ça reste que bon, des régions entières dirigées par des cartels, là, contrôlées par des cartels. Mais il y a beaucoup de Québécois qui, comme ailleurs, là, se sont expatriés là, depuis la pandémie. Donc, j'ai demandé à Moret dans son émission, je serais curieux de voir le nombre de Québécois expatriés depuis la COVID, honnêtement. Là. Puis, le Piketty, justement, c'est une sorte de révélateur de la société québécoise, période révélatrice du déclin québécois. Donc, tu sais, il y en a ailleurs, là, on pourrait, mais ce serait intéressant de voir un recensement, c'est-à-dire combien de gens ont quitté depuis cette période-là. D'après moi, c'est plus de 30 000, là, 30, 40, 50 000 facilement. Des gens m'écrivent là, par rapport à ça. Bon, je suis considéré un peu comme un des leaders de l'exil, je veux dire, même si je suis revenu, là. Mais même durant la pandémie, je m'étais dit, si je lançais une boîte de consultation en exil, probablement que je serais riche, là, tu sais.
Le pire, c'est qu'il y a plein de gens qui font ça. Hein. C'est,
ben oui.
Ouais, mais là, il y en a qui ont émergé. Mais tu sais, j'avais une exposure aussi médiatique. T'sais, tout le monde savait que j'étais à Mexico pendant la COVID. Puis bon, le monde disait, c'est donc bien débile, le gars est en terrasse devant la discothèque le soir, puis les mondes sont confinés, tu sais, au Québec. Il faisait pitié, pas à peu près, là, vraiment, ce qui s'est passé. Là. Alors, je reviendrai pas mille fois, là, mais tu sais, les discothèques étaient ouvertes à Mexico, là, pendant que les Québécois étaient là, ils se couchaient à 8 heures, puis tu sais, Mexico... discothèque avec des latino-américaines, tu sais, what, là?
Les gars, au paradis.
Mais tu sais, tu parles d'Adès. Qu'est-ce que ça dit, ça, sur nous, cette... Parce qu'à chaque année ou presque, on entend des histoires de... Puis encore l'année passée, je pense, l'histoire de Québécois, ça se passe toujours un peu aux mêmes places, là. C'est que des Québécois qui vont en voyage au Mexique, dans des resorts, et puis là, ils se trouvent drôles, ils vont dans des bars... dans des villes, puis ils pensent que ça se passe comme au Québec. Là. Donc là, presque chaque année, tu as une histoire d'un Québécois qui se fait tuer au Coco Bongo.
Ouais.
Des trucs que... c'est...
Coco Bongo,
ailleurs. Ah, oui, c'est un bar. C'est, en fait, c'est une célèbre discothèque de Cancun.
Pis, ah oui, bon, OK.
Oui, puis tu sais, il y a des... Moi, je connais l'endroit. Puis tu sais, tu vas pas là... Je sais pas, les gens pensent qu'ils rentrent au Dagobert, là. Vous êtes dans une discothèque du Mexique, vous êtes un gringo. Il y a comme quelque chose là-dedans qui... Vous n'êtes pas chez vous, là. C'est important de... Il y a des gens qui vivent dans un monde parallèle, là. Ils pensent que partout dans le monde, tu rentres dans une discothèque de Cancun ou de je sais pas moi, en Colombie, puis c'est comme si tu rentrais au Beaugart, là. Il y a comme... Je sais pas si ça vient de où, alors, cette naïveté-là. Là, c'est...
Ça m'étonne beaucoup, ça, beaucoup, honnêtement, de... Plusieurs de mes compatriotes, tu as beaucoup de gens naïfs là, qui pensent, puis qui ont une vision très romantique des pays latinos ou autres, là. Mais c'est les Mexicains, c'est pas juste des bonhommes bruns sympathiques là, qui vont te servir le matin à déjeuner. Là, c'est parce que comprenez-vous ce que c'est? Non. Puis à chaque fois qu'on le rappelle, on est comme des espèces de les personnes qui gâchent la fête, là. On est rabat-joie.
Rabat-joie,
puis là, on a l'air un peu conservateur coincé. Non, faites attention. Ouais, mais on sait comment...
C'est le Québécois typique. Le Québécois typique ne réagit pas tant qu'il n'y a pas un vrai problème. Il anticipe pas les problèmes. Il réagit quand il y a le problème. J'ai un couple de clients qui m'a parlé quand même beaucoup du Mexique. Ils sont là depuis un an ou deux. Je pense que deux ans. Ah, je m'en rappelle pas tant. Yucatan, peut-être, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr à 100% exactement où ils sont. Je connais pas assez le Mexique, en fait, pour te dire où ils sont. Mais ils sont vraiment dans un coin reculé. Là. C'est pas quelque chose de touristique. Ils sont en train d'établir leur vie là. Ils mettent des très bons mots sur le système de santé, des moins bons mots un peu sur le système d'éducation. Ils disent carrément que c'est un 2 à 3 ans de retard là, au niveau éducationnel. Ce qu'on fait en 6e année, par exemple, c'est ce qu'on fait peut-être en secondaire 2 là-bas, là, tu sais. On est vraiment dans un monde, mais le système de santé, il dit, c'est juste malade, là. Il dit, puis tu serais surpris de voir comment dans les établissements de santé privés, parce qu'ils ont les deux, hein, c'est privé-public au Mexique, dans les établissements de santé privés, comment il y a beaucoup de Canadiens soignants. Il dit, c'est débile. Il y a vraiment beaucoup de médecins canadiens. Puis, tu as accès à des spécialistes dans la journée même. Puis quand on dit dans la journée même, c'est quasiment dans l'heure même. Pour différents types de
problèmes. Oh, ben écoute, Mexico, imagine le nombre d'hôpitaux à la pointe. C'est clair, là.
C'est fou. Mais je veux dire, c'est pas censé. Je veux dire, le Québec est censé, au niveau de ses établissements de soins de santé, être en avance sur le Mexique. Là. Tu sais, je veux dire, pas être plate, là, mais le PIB par habitant est pas mal plus grand au Canada puis au Québec. Là.
Ben, il est en avance, on va vous dire, sur la couverture universelle. Parce que forcément, tous les Mexicains n'ont pas accès aux soins de santé comme ça. En même temps, on se débrouille. Là. C'est un peu paradoxal. Fait que tu as effectivement public et privé. Mais c'est sûr qu'il y a des gens complètement hors du système, par exemple, qui avaient un travail autonome, ce qu'on appelle l'économie informelle. Donc, si toi, mettons, tu vends des gâteaux dans la rue pendant 30 ans, c'est sûr que tu n'as pas un fonds de pension puis une couverture, évidemment, publique. Tu n'as peut-être même pas de carte de crédit, de compte bancaire. Hein. Beaucoup de gens au Mexique qui n'ont même pas de compte bancaire.
Bon, exactement. Donc, je pense que c'est 85% des transactions sont en cash, je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça. Là.
Ah oui, non, moi, je suis payé longtemps mon loyer Mexico en cash. Là, moi, je sors de l'argent au guichet. Je ne vais peut-être pas jeter ça parce qu'ils vont venir me braquer là, et après avoir vu le podcast. Mais c'est sûr, le Mexique, c'est le guichet automatique. C'est vraiment effectivement en cash. Puis ils n'abandonneront pas l'argent en cash rapidement. Donc, puis ils n'ont jamais de change. Ça, par exemple. Ouais. Ça, c'est plate parce qu'il y a des gens, tu sais, qui. Mettons, tu as un 500 pesos, puis là, ils n'ont pas de change. Même des fois 200 pesos. Donc, des fois, la personne ne pourra pas te vendre son produit. C'est plate pour elle. Mais là, c'est parce que 500 pesos, je peux comprendre. C'est à peu près 40$. Mais là, quand tu veux t'acheter quelque chose, puis tu as un 200 pesos, à peu près 15$, ben là, ce serait bon que les gens. Il n'y a jamais de change. C'est le pays sans change. Il n'y a pas de change. même au dépanneur, souvent, ils vont t'ordonner une pièce de plus ou. 50 cents de plus. Ou
OK, c'est des deux bars, là, pas de change. Là. C'est...
Il y a, ben, surtout de l'autre côté, là, mais je sais pas parce que les gens dépensent directement l'argent qu'ils font. Dès qu'ils ont 200 pesos, peut-être qu'ils le dépensent. Mais il n'y a jamais de change au Mexique. C'est impressionnant. Enfin, c'est, une, c'est pas très, très grave, là, mais c'est le pays sans change.
Sur Libre Média, tu as publié, en fait, aujourd'hui, ce matin, un entretien, en fait, entre toi et l'essayiste Gaël, je ne sais pas si je prononce bien son nom, là, Brustier ou Brustière.
Oui.
Brustier. Donc,
moi, je dis Brustier, là.
Brustier, bon, on va le dire à la française. Donc, lui a publié un bouquin qui s'appelle « Les analphabètes au pouvoir ». Il est écrit « Livre dans lequel il fustige le manque de profondeur d'un establishment plus que jamais obnubilé par des colonnes de chiffres censées annoncer la fin du monde ». Et là, c'est un entretien écrit avec lui. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus sur la teneur du propos et du bouquin en question. Ça m'a paru assez... On voit la grosse face d'Emmanuel Macron sur...
Moi, peut-être partager l'écran, peut-être.
Oui, je vais le partager.
Pour voir le livre aussi. Ce qui m'a surpris du livre de Gaël Brustier, c'est que c'est les parallèles avec le Québec. Tu sais, quand ce que je décris, par exemple, le déclin puis l'emprise du quotidien, ben, on comprend qu'en France, c'est une tendance qui existe quand même. Donc, c'est très étonnant parce que c'est quand même une mentalité assez différente de celle du Québec. Mais il y a des parallèles. On savait qu'il y avait certains parallèles à faire. On sait que la liberté d'expression décline en France aussi, mais à moindre échelle. Mais c'est ça. Ça me frappe de voir que, par exemple, il y a une formule marrante dans l'entretien. C'est aujourd'hui, le fait d'emmener son gosse à l'école sur un vélo est présenté comme l'apothéose de l'aventure. Donc, tu sais, c'est...
Je comprends pourquoi tu l'aimes.
Oui, oui, oui. Ben, j'y suis pas avec aussi à Paris, il faut dire. C'est quelqu'un de très intéressant. Et effectivement, j'ai des affinités avec lui. Et c'est une bonne occasion. Son livre vaut la peine. Mais lisez l'entretien parce que il est répondu par écrit et c'est un type qui a une très belle plume. Donc, il faut. Il faut aller lire ça aussi, que quand il parle, il dit que vraiment, les risques sanitaires, entre guillemets, sont mis sur le même pied que les risques d'embrasement en Ukraine. Donc, cette espèce d'absence de hiérarchie dans nos médias, c'est, effectivement, c'est vrai. Donc, tu passes un article, bon, les risques de laisser sa dinde sur le comptoir trop longtemps, après, c'est l'Ukraine, puis bon, finalement, la dinde a l'air quasiment plus dangereuse que l'Ukraine, là, que la poudrière ukrainienne, que la dinde passée date ou appelée à devenir... Donc, cette espèce de chaos, ce brouillard médiatique où, effectivement, coexistent toutes sortes de périls, mais sans aucune hiérarchie. Là, donc, c'est ça, c'est intéressant aussi le point qu'il amène. Puis ça amène aussi...
Il y a un extrait quand même que j'aime bien. C'est écrit « Longtemps politologue, cela m'a totalement lassé de recevoir des coups de fil de journalistes me demandant ce que va faire... le leader de droite Jordan Bardella ou le nouveau premier ministre Gabriel Attal. L'incompétence a quand même quelques limites, sauf pour bavarder ou vendre un sondage. En France, le métier de politologue est mort et celui de politiste renvoyé dans les catacombes. Donc, quand même un certain style, là. Faut l'avouer. Mais, tu sais, c'est drôle parce qu'on dirait qu'on est plusieurs, autant en France... Je suis beaucoup ce qui se passe aussi au Royaume-Uni, avec dans certains milieux politiques. On voit ce qui se passe aux États-Unis, au Québec. On dirait qu'il y a comme des gens qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, puis il y a les autres qui le voient pas. Mais tu sais, ce que tu décris sur les articles délirants dans les médias sur une dinde qui a fait telle affaire, c'est... je veux dire, on voit ça un petit peu partout, ce, avec peut-être un côté un peu plus exacerbé au Québec. Mais on dirait que des fois, je me dis, c'est-tu juste moi, tu sais, je parle aux gens de mon entourage, c'est-tu juste moi qui s'en rend compte que c'est... ça fraude la maladie mentale, ce qui se déroule, où vous vous en rendez pas compte, vous trouvez ça normal que, par exemple, je sais pas, on passe 4 jours à parler. C'est Joe qui a envoyé un lien.
Je vais vous le partager.
Ouais, je l'avais envoyé à Jérôme hier, il l'a déjà vu, mais je pense que ça rentre pas mal dans le sujet, là.
La guédille aux crevettes de Matane en voie de disparition.
OK.
La guédille ou la... Je pense, c'est pas toutes les... Je pensais que c'était toutes les crevettes.
OK. Donc, la glacière de Joël Arsenault est en péril, les amis. Donc là, c'est... OK. Donc là, ça, c'était...
Vraiment, on a appris que c'était en raison du manque de personnel, non? Que ça va... C'est en péril. Au début, on a mis
la fermeture de l'usine.
Pour finalement apprendre que finalement, c'est... le fait que les travailleurs mexicains ne pourront pas se rendre à l'usine. Donc, tu sais, encore une fois, l'espèce de mono-variable des changements climatiques s'appliquait pas tout à fait. Là.
Ben, c'est ça.
Je sais pas si vous avez creusé un peu l'histoire.
Hein. C'est la fermeture de l'usine de transformation de crevettes à Matane pour empêcher de s'apprivoisonner en précieux crustacés cet été. Ottawa a tué la crevette de Matane. Man, c'est spécial, hein?
C'est parlant de...
OK, c'est ça, t'as raison. C'est David Decoteau qui sort l'histoire. L'imposition d'un visa aux travailleurs mexicains a sonné le glas de l'usine de transformation de crevettes, les fruits de mer de l'Est, encore plus que la baisse des quotas de pêche de crustacés. Donc, c'est exactement ce que tu dis, c'est Justin Trudeau. Les visas,
au début,
les travailleurs...
Au début, ce qui circulait, c'était une histoire encore de changement climatique. Il faut que je parle absolument de la conférence qu'on organise à Libre Média parce que c'est le premier événement qu'on organise, donc on est très content. On veut amener graduellement un certain nombre d'événements par année. Donc, on voulait développer un peu le volet événementiel. Donc, c'est la première, on se lance. Donc, ça a lieu le 27 mai à la salle que vous connaissez bien parce que c'est la salle que vous utilisez également, que vous louez également pour vos podcasts devant public, c'est ça, de fin d'année?
Oui, exact. Absolument.
Donc, ça s'annonce, je pense, sans prêcher pour ma paroisse, intéressant. Il y a des gens qui ont fait remarquer, ouais, mais là, vous êtes pas mal d'accord sur tous les sujets. Oui et non, ça dépend. Il va quand même y avoir véritablement une partie de débat. Et comme je disais aussi, je ne sais plus où, le contact avec le public, le caractère intime de ce genre de rencontre-là nous permet aussi de dire des choses souvent qu'on ne dirait pas nécessairement ailleurs, pas nécessairement des énormités. Mais il y a comme quelque chose qui se crée, vous le savez, là, avec le public. Et là, on est inspiré. Et finalement,
Attends un peu, pas d'énormité. Je veux dire, on connaît Jean-François Caron, puis on te connaît aussi en privé. Là. Il pourrait s'en dire quand même.
Ouais, c'est ça, Jean-François peut se déconfiner à l'occasion.
Je ne peux pas en dire trop parce que c'est ma ville, Québec.
Ouais.
Venez nous voir, venez nous rencontrer, venez nous parler. Puis soyez déconfinés et décomplexés. Ouais. Il y aura une grande période de questions du public. Donc, on va parler de la censure, forcément. On va revenir sur le cas du prof Caron, sur son propre cas.
L'Université d'Ottawa. Au Parlement, c'est-à-dire.
Au Parlement. On va parler évidemment de toute la transformation du système international avec l'Ukraine, la Russie. Est-ce qu'il faut avoir peur de la Russie? Est-ce qu'il faut avoir peur des changements climatiques?
Ah, c'est une conférence pro-russe.
Oui, je ne sais pas de voir des manifestants qui est 3-4 devant la porte. Ça m'étonnerait. Parce qu'ils sont très paresseux, finalement, les militants d'extrême gauche au Québec. Ils sont paresseux. Donc, tu sais, c'est bien beau derrière son clavier, là, dire bon, vous êtes d'extrême droite, tout ça. Mais quand c'est le temps de se déplacer le lundi soir, parce que c'est le lundi soir, le 27 mai, tu sais, les gens sont très pantouflants. C'est pas comme au Mexique où là, je me suis fait reçu un coup de poing dans la face par une féministe il y a 2 semaines dans une manifestation.
Ouais.
le jour de la marche des femmes, ça brasse beaucoup plus. Là, on a des militants beaucoup moins pantouflants qui sont prêts, vraiment prêts.
T'as reçu un coup de poing dans la face d'une femme féministe. Là. Faut t'en parler un peu. T'es en train de faire un reportage ou tu te promenais, t'allais voir?
C'est la marche des femmes le 8 mars. Et là, c'est sûr, c'est réputé en Amérique latine pour être assez corsé. Puis les hommes sont pas nécessairement bienvenus. Mais je me suis quand même, comme journaliste, je me suis dit, je vais aller voir ce qui se passe là. Puis donc, je me suis approché. Là, j'ai pris des images un peu avec mon cellulaire, effectivement, de vandalisme. Ça les a un peu provoqués, enfin, certaines d'entre elles. Et ça a commencé comme j'ai été comme bousculé, une a essayé de menacer de m'envoyer de la peinture aérosol dans le visage. Là, j'ai dit que j'étais journaliste, etc. Et là, elles ont commencé à scander à Fuera Gringo, ce qui veut dire dégage le blanc. Là, et là, ça fait, on parle de 30-40 militantes là, qui scandent ça. Ouais. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je dégage et là, ça a bousculé. Puis j'ai reçu une sorte de coup de poing, mais qui a comme été dévié par quelqu'un qui passait. Donc, pas tout à fait un coup de poing d'en face, mais. Ben, un coup de poing d'en face, mais disons ralenti. Là.
C'est pas raciste, c'est pas tout, ça, c'est ça qui est le fun. Là.
Dans les milieux. Non, mais ça m'a. J'ai été choqué parce que moi, d'abord, je suis pas gringo pour deux scènes, dans le sens où je suis pas américain, je suis pas protestant, je suis pas anglophone. Donc, tu sais, c'est sûr que. Imaginez dire à un Irlandais qui est gringo, là, c'est sûr que les nuances se font pas là, du tout. Mais tu sais, on est dans un contexte de. C'est l'immédiat, là. C'est pas un séminaire de philosophie commencé à expliquer. Bon, que vous êtes descendant des coureurs des bois, là, c'était pas le temps de t'expliquer ça. Mais c'est un peu choquant parce que moi, ma femme elle est mexicaine, tout ça, là, je veux dire, je suis pas un envahisseur gringo là, pour deux scènes, là, mais enfin, bref. Puis surtout, mais ça m'a surtout choqué pour la liberté de la presse. Là, ça, vous pouvez pas vous en prendre comme ça, un journaliste.
Puis surtout, tu filmais du vandalisme, c'est toujours bien les autres qui l'ont fait, là, je veux dire, à un moment donné.
Ben, tu sais, je filmais un peu de tout, là. C'est parce que je filmais tout, mais comme le vandalisme est comme généralisé, puis que forcément, tu vas capter des images, parce que partout où elles passent, elles font des graffitis. Donc, si tu prends une photo, forcément, ça apparaît dans le portrait, là. Donc, il y en a une ou deux qui ont senti qu'elles étaient peut-être exposées. Mais en même temps, c'est l'avenue, c'est une avenue principale à Oaxaca, au centre-ville. Là. Donc, tu sais, forcément, vous êtes exposé. Mais tu sais, je suis pas naïf. Je savais que ça brasse beaucoup dans ces manifestations-là. Puis il y a des images de gars qui sont faites carrément, je veux dire, lynchés. Tu peux te faire lyncher là. Mais c'est ça, c'est une petite aventure là, journalistique. Mais j'étais vraiment quand même sur le coup assez choqué, là.
Ouais, quand même. Là. Ça peut marquer, c'est sûr. Là, dans un... tu t'attends pas à ça. C'est pas au Québec qu'un truc de même se produit, c'est sûr.
Non, c'est bien une ville, apparemment, quand même, au casse-croûte, là, ça brasse pas
c'est
mal.
Oui, c'est ça, la révolution sociale au casse-croûte de Neuville.
Donc, quand tu vas chercher une patate frite, ça se peut que tu reçoives un coup de poing aussi d'en face dans le coin du casse-croûte parce que c'est rendu violent, apparemment, selon l'article de Radio-Canada.
Oui, c'est rendu très violent. Écoute, parler, c'est drôle, tu m'enlignes là-dessus. Dernier point sur lequel je voulais t'entendre brièvement, parce qu'à mon avis, les médias, et en particulier les médias québécois, se sont encore déshonorés sur cette chose-là. Puis je n'ai pas vu vraiment de réaction de votre part. Je ne sais pas qu'il n'y en avait pas, mais je ne l'ai pas vu. C'est sur cette fameuse histoire de, bon, Donald Trump est en Ohio, en train de faire une allocution, et bon, il parle du marché automobile, il dit « les Chinois veulent faire construire des voitures au Mexique pour profiter de l'accord de libre-échange entre le Mexique et les États-Unis, puis nous envoyer les voitures qu'ils vont faire fabriquer là-bas, dans le fond, pour faire du dumping, là, grosso modo, là, c'est la politique de Trump. » Je dis pas que je suis en accord ou pas avec ça, c'est pas ça le but. Puis il dit « si je suis pas élu, puis si on ne met pas des mesures tarifaires, there will be a bloodbath, il y aura un bain de sang. » C'est ce qui est une expression connue dans le milieu financier, tout ça. Et là, les médias québécois, ça fait une semaine qu'ils nous disent qu'en gros, Donald Trump veut faire une guerre civile et tuer des gens, là, c'est s'il est élu, grosso modo. Hier, il y avait encore même...
C'était seulement référence à cette pratique économique-là qui a dit ça, ou parce qu'on a compris que c'était plutôt... en tout cas, ce qui a été laissé, ce qu'on a sous-entendu, c'était que il disait « si je ne suis pas élu tout court, il va y avoir un bain de sang ». C'est ça qu'on a rapporté.
Ben écoute, on a fait jouer l'audio plus tôt cette semaine. Je ne le ferai pas rejouer encore parce qu'il n'est pas sous la main, là, mais la vidéo. Et la vidéo montre clairement qu'il parle du marché automobile. En tout cas, je ne vois pas honnêtement comment quelqu'un peut...
À base,
interpréter ça différemment.
C'est quand même plusieurs fois qu'il dit des trucs quand même.
Mais ce qui arrive, c'est Jérôme, juste
limite, en... là. Mais il parlait aussi de la contamination du sang. Il faut faire attention à ce qu'on dit quand même quand on.
Mais c'est quand même pas
cette position là.
C'est quand même pas si limite que ça. Je veux dire, n'importe qui suit les sujets financiers couramment, l'expression bloodbath est fréquente.
Oui, mais quand il dit les immigrés vont envenenar, là, c'est genre contaminer le sang de la nation. Je l'ai lu souvent dans la presse hispanophone.
Ça, ça n'a pas passé, ça.
Ben, il dit que les immigrés menacent finalement. Il faudrait que je sorte la.
Parce que ça, on ne l'a pas vu passer dans.
Non, mais c'est clairement. Ouais, ben les... Mais c'est clairement à la suite de, du premier. T'sais, dans le fond, c'est clairement relié à ça. Dont, de, le bout dont toi tu parles, je ne le sais pas, mais ce qui est sorti cette semaine, c'est clairement relié à cette allocution-là. Je l'ai l'audio. Et écoutez, encore hier, Gérald Filion écrit « La rhétorique de Donald Trump est de plus en plus radicale et violente. Avec ses démêlés en justice, pourrait-il aller encore plus loin? » Et là, l'image qu'on voit, c'est écrit « Donald Trump prévient d'un bain de sang. » Mais il n'y a aucunement mention de l'extrait que voici. Là, je ne suis pas capable de le mettre en plein écran, mais vous allez l'entendre. «
Trump a pris over a period of 30 years. 34% of the automobile manufacturing business in our country, think of it, went to Mexico. China now is building a couple of massive plants where they're going to build the cars in Mexico and think, they think that they're going to sell those cars into the United States with no tax at the border. Let me tell you something to China. If you're listening, President Xi, and you and I are friends, but he understands the way I deal, those big monster car manufacturing plants that you're building in Mexico right now, and you think you're going to get that, you're going to not hire Americans, and you're going to sell the cars to us now, we're going to put a 100% tariff on every single car that comes across the line, and you're not going to be able to sell those cars. If I get elected, now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole, that's going to be the least of it. It's going to be a bloodbath for the country. That'll be the least of it. But they're not going to sell those cars. They're building massive factories. A friend of mine.
Et là, ça continue. Honnêtement, je vois pas comment on peut occulter de la conversation. La... C'est ça qui parle. C'est de ça qu'il parle. Je veux dire, on peut critiquer Trump sur n'importe quoi. Là. D'ailleurs, sa position économique, c'est plutôt une position de gauche en passant, là. Ultra-protectionniste, qu'il faut pas qu'il y ait de libre-échange. Qu'on... Ce qu'il vient de dire là aurait pu être dit par n'importe quel démocrate des années 90. Là. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des tarifs parce que les Chinois font du dumping mm-hmm. social. Et là, les médias...
Comme... Les Américains qui veulent réinstaller des usines qu'il y avait en Chine au Mexique, hein, ce qu'ils appellent le nearshoring, puis la nouvelle usine de Tesla à León s'inscrit dans cette logique-là. Donc, les Américains, eux, veulent reprendre un peu le, c'est ça, le contrôle de leur économie avec toute la question des micropuces, hein, c'est bien ça?
Entre autres. Ouais. Donc, j'ai comprendre comment on a pu. Parce que là, ça fait une semaine dans les médias québécois qu'on nous dit que la signification de ce qui vient d'être dit, c'est en gros la guerre civile. Moi, je.
Oh, et puis regarde, ben Frank, tu l'avais à côté, là, les liners de tous les médias mainstream, puis il y a tellement eu une mime là-dessus à quel point ils ont tout embarqué dans patente. Et même, ben là, on ne peut pas le passer, là, mais Gérald Filion à Radio-Canada hier. Content, Jacinthe était sur le plateau, elle a quand même rectifié le tir. Mais tu sais, bloodblat à bloodbath. Puis tous les extraits qui passaient, même à MSNBC, ils coupaient vraiment la partie d'avant. Aussi, qui parlait de l'industrie automobile, ils disaient juste, ah ouais. Oh, it's going to be a bloodbath. Il n'y a pas de contexte.
Mais c'est, dans le fond, c'est vraiment une expression économique, là, comme disait Yann.
Ben oui, c'est ça, c'est qu'en finance, quand il y a une compagnie, par exemple, qui a une grosse décote ou qui, par exemple, il y a un secteur, par exemple, quand il y a eu la correction au niveau technologique après la pandémie notamment, ben, c'est une expression en finance qui est utilisée. A bloodbath, ça veut dire que c'est un secteur qui est nettoyé, qui s'effondre. Ben, tu sais, par exemple, quand le Bitcoin, à un moment donné, est descendu super bas, il y a des gens qui utilisaient cette expression-là, c'est un bloodbath. Donc, tu sais, je veux dire, moi, ce que je trouve déplorable là-dedans, c'est qu'on nous dit que là, il faut faire des lois spéciales pour donner au gouvernement la possibilité de nettoyer les fake news sur Internet et la désinformation. Je suis désolé, ça en est de la désinformation, ça. Si vous dites pas que dans le cadre d'une allocution sur l'industrie automobile, Donald Trump a dit qu'il allait avoir un bain de sang s'il n'était pas élu, et vous coupez le bout, le contexte, et vous dites, vous mettez juste ça, vous désinformez les gens. En tout cas, je sais pas ce que tu en penses.
Ah, ben là, désinformation, si quelqu'un, on ne peut pas avoir un organisme qui, lui, décident de ce qui est des informations ou non. Vous comprenez, on crée une église qui s'arroge de droit, dire ça c'est hérétique, ça c'est non, ça fait partie du canon.
C'est ça les fact-checkers, hein, Jérôme?
Oui, c'est des clairs. Là,
tu changes une virgule, ton Pierre Poilievre a déclaré que le Canada, que Justin Trudeau est un menteur. J'invente une histoire. Mardi, Pierre Poilievre a déclaré que Justin Trudeau a détruit l'économie. Il dit c'est faux, ça s'est passé mercredi. c'est ça un fact-checker. À quel point c'est facile de contourner le logique de oui ou non, ou de il n'y a pas de nuance, c'est soit t'as raison ou t'as pas raison. Ou des fois ils disent ah oui, c'est partiellement vrai, mais ouais.
C'est comme on l'a vu, on a. Dernier exemple. Ce qui est arrivé avec la Cour suprême, là, le fameux jugement où la juge Martin qui on parle d'une personne avec un vagin pour qualifier une femme et qui regrette finalement l'utilisation du mot femme à un certain endroit dans un jugement de ses pairs. Donc, on a eu un peu l'effet fact-checker cette semaine où un ensemble d'observateurs, de bons professeurs d'université du bon côté qui nous ont dit non, il n'y a absolument pas de virage woke à ce niveau-là. C'est tout à fait anodin, c'est tout à fait anecdotique que l'expression « personne avec un vagin » se retrouve dans un jugement de la Cour suprême. Ça ne signifie rien. Alors que moi, j'ai parlé à Marc Chevrier, qui est un juriste réputé, professeur à l'UQAM, et dans un article à Libre Média, on est venu rectifier. Lui dit « attention, là, c'est pas anodin ». C'est pas banal, c'est plus symptomatique qu'anecdotique. Donc, allez lire l'article parce qu'il y a des éléments un peu techniques, mais des éléments de droit. Mais encore là, l'effet fact-checker où là, on s'arroge le droit de dire non. La vérité, c'est que la Cour suprême n'est pas du tout woke et que c'est une réaction hystérique de l'extrême droite qui finalement veut faire du clic avec ça. Les Richard Martineau, etc., qui ont rebondi là-dessus. Donc, bref, on ne peut pas instaurer un organe ou des organes de régulation de l'information pour trancher ça, c'est de la désinformation ou non. C'est-à-dire, ça, c'est la vérité, ça, c'est pas la vérité. Là, vous êtes dans une logique religieuse et cléricale. Et c'est,
ouais, ça fait 1984 beaucoup. Là.
Le ministère de la vérité.
Le ministère de la vérité.
Exactement. Exactement.
Ben, c'est surtout que, tu sais, moi, j'en veux pas du ministère de la vérité, mais ce qui est pire encore qu'il existe, ce ministère de la vérité-là, c'est qu'on sait que l'application de la vérité se fera à géométrie variable. C'est pour ça que je prenais l'exemple de ce cas-là. C'est qu'il n'y aura pas de fact-checker. Tu sais, la gang là, qui est de fact-checker de Radio-Canada, là, sont pas allés fact-checker ce qui est écrit Gérald Filion, ou ils parleront pas de ce truc-là. Non, il n'y aura pas de note en bas de prendre en, comme il y avait en dessous des trucs qu'on publiait durant la pandémie, là, prendre en considération qu'il faut regarder ce que Santé Canada dit au lieu d'écouter ce que ces gens-là disent. Mais eux, il n'y en aura pas de note en bas de fact-checker écrit. Attention, il faut replacer ces propos-là dans leur contexte. Voici ce qui était dit, voici un lien vers la transcription et la vidéo. Non, ça va être correct. Par contre, toi, si tu dis, tu sais, je sais pas, un peu plus tôt, tu disais, ça serait le fun de savoir combien de Québécois ont quitté. Tout ça, si jamais quelqu'un sort le chiffre, puis c'est 12 000, ils vont prendre ta face, ils vont dire, Blanchet Gravel a dit 20, 30 000, en fait, c'est 12 000, regardez comment ils désinforment.
Il y a beaucoup d'interprétations. Après, qu'il y a des choses fausses qui circulent sur le net, c'est sûr, là, puis on sait qu'il y a des fausses images, ça a culminé avec la guerre. À Gaza. Donc, depuis Gaza, il y a vraiment une multiplication, une prolifération de fausses images.
Ouais, avec l'acteur qu'on l'a vu quasiment 15 fois dans 15 sessions différentes dans un hôpital. Là, puis là, tout d'un coup.
Et de part et d'autre.
Ah, c'est
de capoté. Part et d'autre. Donc, même les chiffres sur l'Ukraine, évidemment, quand on nous dit, il y a eu 30 morts dans une ville ukrainienne, la Russie, c'est le contraire. Il faut faire extrêmement attention. Donc, mais puis, on sait, il y a des éléments carrément faux qui circulent sur le web. Il y en a, mais après, ça ne veut pas dire d'instaurer un ministère de la vérité. Les gens sont assez intelligents, puis la compétition saine entre les médias devrait faire en sorte que, naturellement, on soit capable d'identifier les choses fausses. Après, il y a un effet réseau social, il y a un effet web là, qui est nouveau. Donc, on mélange quand même certaines choses. Là.
Mais de toute façon, Jérôme, excuse-moi de te couper, là, mais de toute façon, le problème avec tout ça, c'est même d'un point de vue technique. Tu sais, tout ce qui se passe maintenant sur le web et dans les médias, c'est on est dans la règne de l'instantanéité. Là. Il y a un budget historique qui a été fait la semaine passée, c'est déjà plus un sujet d'actualité. On est déjà passé à autre chose. Le gouvernement, lui, par définition, c'est une entité lente et extrêmement compliquée à faire réagir. Donc, eux, ce qu'ils vont faire, en réalité, c'est qu'ils vont, à un moment donné, on va apprendre que quelque chose qui a été publié il y a 6 mois a été sanctionné, ou même 1 an, mais ça sera déjà plus pertinent pour personne en réalité. C'est ça qu'il faut comprendre. Un peu comme des trucs qu'on voit à la Cour suprême, que tu dis, OK, finalement, tu sais, l'affaire dont tu parles, là, avec l'histoire de femme avec une personne avec un vagin, tout ça. Quand tu lis, parce qu'on a fait un podcast là-dessus, moi, puis Simon Rochelot, qui est avocat, puis quand tu lis dessus, on parle quand même d'un dossier qui parle de faits qui se sont produits en 2016-2017. Là. Donc, c'est là le début. Vous comprenez qu'on est en 2024, on jase en cours de quelque chose qui est arrivé il y a 8 ans, 6 ans. L'État est un être extrêmement lent pour le meilleur et pour le pire. Et l'instauration de patentes pour contrôler le discours, tout ça, ça ne pourra être qu'en décalage total avec la réalité d'aujourd'hui qui fait que, bon, François Legault dit quelque chose, le lendemain, puis personne ne s'en rappelle parce que c'est Pascal Bérubé qui a dit d'autres choses. Tu sais, ils ne peuvent pas suivre le rythme qui se passe en ce moment, c'est impossible.
Non, puis c'est comme si dans ta maison, tu dis, hey, mon char a une crevaison. OK, j'arrive avec mes outils, même pas 2 secondes de prendre la boîte d'outils. Hey, le lave-vaisselle est en train de déborder. Là, tu cours à côté. Fait que ça, l'actualité, autant que je comprends que la planète n'arrête pas de tourner, on ne peut pas la faire arrêter de tourner, il va toujours avoir des nouvelles et quoi que ce soit, mais le fait qu'à ce point que justement il y a comme une géométrie variable sur les nouvelles en tant que telles, parce que regarde, pour venir rapidement sur le bloodbath, si ça aurait été Biden qui aurait dit ça, est-ce qu'il y aurait une nouvelle là-dessus? À la limite, il y en aurait eu une, mais plus genre positive. T'sais. Le président Biden met en garde les Américains qu'il y aura
Biden vole au secours de l'industrie automobile.
Fait que d'un côté, c'est une des rares fois que je comprends un peu le côté merdique de politicien, dans le sens que l'actualité est tellement là tout le temps que tu essaies de garder un objectif central, puis c'est dur, parce qu'il y a tout le temps 36 millions de vagues qui frappent le bateau, puis qui veulent t'envoyer de tous les bords. Là.
Ouais, c'est vrai. Donc, on rappelle aux gens la conférence avec le prof Caron.
27 mai prochain, les billets.
27 mai à la Saint-Lebourgneuf. Donc, allez sur le site de Libre Média. Donc, libre-media.com.
Ou sur le site de la Saint-Lebourgneuf.
C'est ça. Le site de la Saint-Lebourgneuf, les gens peuvent se procurer des billets là-dessus très facilement. Donc, réservez votre place, c'est important parce que...
ça va vite, là. Les billets, on a déjà vendu beaucoup. Là. Donc, pour ceux qui veulent venir, faites plus vite que plus lentement.
Absolument. Donc, ça sera en même temps l'occasion aussi là, de rencontrer des gens. C'est important. Là, on vit dans une époque
casanière. Oui, c'est ça. Les événements. Des événements réels. C'est-à-dire pas seulement présentiel, comment on dit.
À distance.
Présentiel et non seulement.
C'est ça. Mais ça manque. Je pense que des fois, je regarde un peu ce qui se passe ailleurs. Je me dis, OK, tu vois, je sais pas, moi, Ben Shapiro, Constantine Kizin sont toujours en train de faire des mêlées, des genres de bains de foule avec des podcasts en public. Puis les gens viennent poser des questions. Ici, on est encore comme en 2020, on est confiné dans un espèce de
confinement.
2015.
Les gens, ils sortent pas de chez eux. Ah ouais. Puis tu sais, puis je m'inclus là-dedans. Là. C'est pas un jugement de morale que je fais ces gens. Là. Moi aussi, je suis comme ça, un peu asocial, puis un peu ermite. Là. Mais je pense que c'est bon de se forcer.
Un gars de chalet ou.
Ouais, j'étais un peu chalet, moi. Mais je pense que c'est important de se mettre un coup de pied au derrière une fois de temps en temps, aller dans des événements publics, tout ce qui peut vous arriver.
Les gens sont contents qu'ils reviennent. On ne regrette pas de s'être forcé, entre guillemets, là, à faire quelque chose. Là.
C'est ça. Puis le pire qui peut vous arriver... C'est ça. Le pire qui peut vous arriver, c'est que vous allez rencontrer des gens puis peut-être tisser des liens, des amitiés, tout ça. Là. Fait que je pense que c'est important... En 2024, à l'heure de l'isolement, puis les gens sont de plus en plus de problèmes à avoir d'un cercle social, puis tout ça, je pense, pense que ça fera pas de tort à personne d'aller dans des quelques événements publics. Puis moi, j'en appelle à la multiplication, si c'est possible, de ce genre de choses-là, parce que ça manque vraiment ici, là, en tout cas, je pense. Fait que merci, Jérôme, d'avoir été là. On renvoie les gens à Libre Média, évidemment. Donc, vous pouvez vous suivre un petit peu partout, sur votre chaîne YouTube, sur votre site web. Ne manquez pas d'aller suivre Libre Média pour être au courant de toute votre actualité.
Merci beaucoup. À très bientôt.
Yes. Ouais.